bonsoir, comment allez-vous? Le dicton dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Alors, est-ce qu'une fourmi ferait le printemps? Je demande parce qu'hier, j'ai vu ma première fourmi de l'année. La première fois qu'on mange quelque chose dans l'année, on peut faire un vœu et il se réalisera. Je n'avais pas l'intention de manger cette fourmi. D'abord, je n'aime pas ça, ça pique, et ensuite, elle ne m'avait rien fait. Si avec ses 600 milliards de congénères, elle me boulotte un pot de confiture que je ne me rappelle pas lui avoir offert, je vais être contrariée. Mais de là à la manger, non. Si on devait manger tous ceux qui nous contrarient, ce serait lourd. Chose curieuse, si on ne le mange pas, c'est lourd aussi. Il nous pèse sur l'estomac ou le cœur, je ne sais pas. Je sais qu'il pèse. La fourmi, elle, n'a pas fait exprès de nous contrarier. Elle a simplement mené sa vie de fourmi, sans savoir que les œufs en sucre qu'elle avait ravagés avec ses collègues étaient pour Pâques, soigneusement lâchés, cachés par les cloches. Rien ne sert de lui en vouloir. Quel rôle jouent les cloches dans la vie d'une fourmi? C'est mystérieux, probablement aucun. Quel rôle jouons-nous, nous, dans la vie de ceux qui nous ont contrariés, voire blessés? C'est mystérieux aussi, peut-être aucun. Nous avons été atteints sans avoir été visés. Quoi qu'il en soit, pas de rancune pour les fourmis.
Bonjour, je m'appelle Juliette. J'aimerais savoir comment se passe la journée d'une fourmi. Merci, au revoir.
Bonsoir Juliette. Luc Passera a écrit « La vie extraordinaire des fourmis » édité chez Fayard. La journée d'une fourmi, demande Juliette.
Alors, la journée d'une fourmi, il faut savoir que les fourmis observent ce qu'on appelle une division du travail. D'abord, au niveau de la reproduction, seules quelques femelles, des femelles spécialisées, qu'on appellera des reines, ont le monopole de la ponte et donc de la reproduction. Les autres femelles, qu'on appellera des ouvrières, ne s'accouplent jamais, ne pondent généralement pas et vont s'occuper de toutes les autres tâches de la fourmilière selon une division du travail. Cette division du travail, elle peut être due à la taille de l'ouvrière. Chez certaines espèces, il y a des ouvrières de petite taille, de taille moyenne et de grande taille. Les ouvrières de petite taille restent dans le nid et ont des fonctions de nourrice, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir les larves de la fourmilière et elles vont nourrir également la reine. Les ouvrières de taille moyenne sortent de la fourmilière et vont récupérer la nourriture. Ce sont des ouvrières pourvoyeuses ou fourrageuses. Et les fourmis qui ont la taille la plus grande, elles sont armées de mandibules assez redoutables, elles vont fonctionner comme des gardiennes ou comme des soldats pour protéger l'ensemble de la fourmilière. Chez d'autres fourmis, toutes les ouvrières ont la même taille. Et à ce moment-là, la division du travail sera basée sur l'âge de la fourmi, non plus sur la taille, mais sur l'âge de la fourmi. C'est-à-dire que les fourmis les plus jeunes resteront à l'intérieur du nid et auront des fonctions de nourrice. Les fourmis un petit peu plus âgées gagnent la sortie du nid et se postent aux entrées du nid et jouent un rôle de gardienne. Et les fourmis les plus âgées, les plus vieilles, vont donc être autorisées à sortir de la fourmilière pour aller chercher de la nourriture.
Ça veut dire combien de temps lui passera une fourmi?
Alors, une fourmi ouvrière, ça vit entre 3 semaines à peu près et 1 an. Pas plus. D'accord. Et donc, il est intéressant de savoir que lorsque tu vois une fourmi à l'extérieur de la fourmilière, c'est obligatoirement une fourmi âgée.
Mais une reine, ça vit plus longtemps que les fourmis ouvrières?
Elle vit beaucoup plus longtemps. La reine peut vivre des années, elle peut vivre 10 ans, elle peut vivre 15 ans, elle peut vivre 30 ans, parce qu'elle ne sort jamais, elle est protégée, elle est au cœur de la fourmilière, et donc elle ne risque pas ni de se perdre, ni d'être attrapée par un prédateur, par un oiseau, par un lézard, par une autre fourmi, écrasée par un promeneur. Elle a une vie donc beaucoup plus longue.
Mais Luc Passera, on dit une fourmi, mais finalement ces fourmis ouvrières qui ne se reproduisent pas, elles sont ni mâles ni femelles, si elles n'ont pas d'appareil reproducteur?
Si, elles ont un appareil reproducteur. Elles sont femelles, elles ont un appareil reproducteur, elles ont des ovaires, mais elles n'ont pas cette poche qui permet de stocker les spermatozoïdes, qu'on appelle la spermathèque, et donc elles ne peuvent pas s'accoupler, faute de cette poche, et donc elles ne peuvent pas se reproduire.
Et les mâles?
Alors les mâles, eux, ce sont des transporteurs simplement, des producteurs et des transporteurs de spermatozoïdes, ils ont une vie très brève, qui est limitée à la période de reproduction, et ils meurent dès qu'ils se sont reproduits, ou s'ils ne se reproduisent pas, ils meurent quand même, très vite, parce qu'ils ne savent pas s'alimenter.
Ils ne savent pas s'alimenter, les pauvres garçons. Luc Passera, professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Son dernier livre s'appelle « Le monde fascinant des fourmis » et je ne résiste pas à vous donner le nom de son éditeur, Grenouille Édition, qui est basé à Chamalières. Pascal Cossard, vous la connaissez bien si vous êtes auditeur des Petits Bateaux. Je profite en passant pour vous rappeler le principe de l'émission. Des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Pascal Le Cossard est professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, spécialisée en microbiologie cellulaire. Elle était venue au Petit Bateau avant le début de la pandémie, voilà pourquoi elle n'en parle pas.
Bonjour, je m'appelle Loane, j'ai 10 ans et demi. Je voudrais savoir la différence entre un virus et un microbe. Au revoir.
Alors bonjour Loane, écoute, un virus et un microbe, c'est carrément différent. Alors je vais te dire, un microbe, ça veut dire que c'est quelque chose qui est tout petit, que tu es obligé de regarder avec un microscope. Et parmi les choses toutes petites, on a des bactéries et puis on a éventuellement des virus. Et ta question, elle est très importante parce qu'un virus, en fait, c'est pas un organisme vivant, c'est pas vraiment un microbe. Un virus, c'est, disons, quelque chose qui peut donner une maladie parce qu'il va entrer dans une cellule, entrer dans un organisme vivant. Donc c'est un terme extrêmement précis. On ne peut pas dire que c'est un organisme vivant, un virus. C'est un organisme qui devient vivant parce qu'il va parasiter une cellule, il va rentrer dans une cellule, il va se multiplier, il va faire éclater la cellule et il va produire une maladie.
Un virus, c'est un problème.
Non, un virus, c'est plus qu'un problème. Mais un virus, c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait. Le virus, s'il est par exemple sur une table, il ne peut pas se multiplier. Il a besoin d'être dans un organisme vivant. Il a besoin d'être dans une bactérie ou il a besoin d'être dans une cellule de votre corps. Par exemple dans la gorge, par exemple sur la peau. Et alors là, il est rentré dans cette cellule, il s'y multiplie. Il est en train de déranger toutes les fonctions normales de la cellule. Il fait éclater la cellule et donc il produit une maladie.
C'est ce qu'on appelle un parasite ou c'est encore autre chose ?
C'est pas vraiment un parasite parce qu'il n'a pas une vie à lui. C'est quelque chose qui dérange. Il dérange le fonctionnement normal d'une cellule.
Mais ce n'est pas quelqu'un.
Non, c'est pas quelqu'un.
Le dernier livre de Pascal Cossard sortira le 28 avril, édité chez Odile Jacob. Il s'appellera « Le grand voyage chez les microbes ».
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent. Comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en fravioso des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. Malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Chaloupé, chaloupé. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malecon, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper. Chaloupé, 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 chaloupé. Oh, fais-moi tourner sous mes pas, glisse les années, toi et moi, jusqu'au bout des mers, on pourra chalouper.
Gaël Faye, qui a, je vous le rappelle, reçu le prix Goncourt des lycéens pour son livre Petit Pays. On dit qu'il en a vendu 1 million d'exemplaires. Magnifique. Ce chaloupé est extrait de son dernier album qui s'appelle Lundi méchant.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous avons tous vu dans nos livres d'histoire ces dessins de Romains couchés sur le flanc en train de s'empiffrer. Est-ce vrai?
Bonjour, je m'appelle Antonin et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment les Romains dont j'ai couché sont s'étouffer.
Bonsoir Antonin. Antonin, que tu es mignon. Yann Le Boeck, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne. On est dans votre domaine avec les Romains. Est-ce vrai ce que demande Antonin? Mangeait-il vraiment couché?
Eh bien, Antonin a raison, c'est terriblement difficile de manger couché. Je peux vous le dire parce que j'ai essayé.
Oui.
Et ça n'est pas agréable du tout. En réalité, les Romains mangeaient très rarement couché. C'est seulement quand il y avait un banquet. Quand un chef invitait, un personnage puissant invitait des amis, donc il faisait mettre des lits. En principe, il y avait 3 lits, et sur chaque lit, il y avait 3 invités qui étaient priés à ce repas. Uniquement quand il y avait un grand repas. Cela dit, des hommes comme Lucullus, par exemple, dont le nom est connu et auquel j'ai sacrifié quelques mois l'an dernier, Lucullus organisait des banquets pratiquement tous les jours. C'était très rare qu'il n'en ait pas organisé.
Alors, j'ai sacrifié quelques mois, ça veut dire qu'il y a un livre sur Lucullus
voilà,
qui s'appelle...
Voilà, il y a un livre sur Lucullus, c'est Lucullus tout court.
Chez Talendier?
Chez Talendier, oui. Ça m'a beaucoup passionné parce que ce Lucullus n'était pas seulement un gourmand, c'était aussi un homme extraordinaire par beaucoup de côtés. Bon, ça n'est pas le sujet. Le sujet est le banquet. Alors, au cours d'un banquet, les gens ne s'empiffraient pas. Ils mangeaient lentement, par petits morceaux. Tout était préparé à la cuisine, soigneusement taillé. Et le repas était entrecoupé par de longues discussions, notamment Lucullus. Nous savons qu'il adorait la langue grecque et qu'il était un grand philosophe. C'était un platonicien de haut niveau. Donc Lucullus invitait des philosophes grecs et il discutait avec eux. Est-ce qu'on peut savoir ceci, cela? Que pensez-vous de ceci, de cela? Ça durait très longtemps. On parlait de littérature, de tas d'autres choses. Et il y avait aussi des spectacles, des danses, du striptease, enfin toutes sortes de choses qui occupaient nos amis. Ce qui fait que les repas couchés étaient supportables dans la mesure où on mangeait des petits morceaux les uns après les autres et où, pour les faire passer, on avait toujours d'excellents vins. Les Romains, normalement, mangeaient debout. Ils ne mangeaient pas assis à une table, ils étaient debout. Et le matin, pour le petit déjeuner, vers l'après-midi, vers 15h, ils prenaient leur deuxième repas. Et c'est seulement le soir, vers 9h, qu'il y avait le dernier repas, qui n'était pris couché que quand il y avait un banquet.
Chez Astérix, me dit Stéphane Combe, on voit toujours les Romains qui prennent leur repas couché. Astérix, c'est très amusant, mais est-ce une référence? En tout cas, les livres de Yann Le Boeck sont évidemment sérieux. Vous trouverez leurs références sur le site des Petits Bateaux. Sérieux et amusant, ce sont deux qualités qui ne vont pas forcément ensemble. Eh bien, chez Yann Le Boeck, oui. Aline Reynal-Roch a écrit un livre chez Glénat qui paraîtra le 12 mai, qui s'appelle « Découvrir » et cultiver les orchidées. Mais Aline Reynal-Roch ne s'intéresse pas qu'aux orchidées. Cette botaniste chercheuse et professeure émérite au Musée national d'histoire naturelle s'intéresse à beaucoup de choses qui touchent aux plantes.
Bonjour, je m'appelle Stanislas, j'ai 9 ans et je voudrais savoir pourquoi dans la noix de coco il y a du jus. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Mariette, je suis en CM1. Je voudrais savoir pourquoi les graines poussent vers le haut, non pas vers le bas. Merci de me répondre à cette question.
Eh, mais oui, elle a raison. C'est extra, j'avais jamais pensé. Mariette, vraiment bonne question. Merci aussi à Stanislas. Ça a l'air extraordinaire, la graine, Aline Reynal-Roch.
Oui, la graine, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que dans une graine, il y a un bébé plante. Tout petit. Un tout petit bébé qui dort dans la graine. Mais il n'y a pas qu'un petit bébé. Parce qu'un bébé, vous savez tous, les enfants, que ça a besoin de manger beaucoup. Eh bien, les bébés plantes, c'est pareil. Donc, dans la graine, vous avez le bébé entouré de tout ce qu'il faut pour qu'il se nourrisse bien le jour où il en aura besoin. Il peut rester endormi assez longtemps. Mais quand on met la graine dans la terre c'est un peu tiède, c'est un peu humide, c'est un peu aéré, il y a le soleil qui tape un petit peu sur la terre, c'est confortable, ça le réveille. Et à ce moment-là, il est pris d'une fringale, il mange ce qu'il y a autour de lui dans la graine. Ça lui donne tellement de force qu'il sort de la graine, il casse sa graine, il en sort. Ça s'appelle la germination. Et il devient une petite plante, toute petitoune, mais qui pousse. Cette plante devient verte au soleil. Elle est chlorophyllienne, elle fait la photosynthèse, comme toutes les plantes vertes, et elle se développe. Et alors, elle va se développer de deux côtés à la fois. Nous, nous voyons la tige qui pousse droit vers le haut, avec ses petites feuilles vertes.
Ah, c'est pour Mariette, ça.
Oui, et il y a la racine qui pousse droit vers le bas pour s'enfoncer dans la terre. Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours bien orientée comme ça? Un côté vers le haut, un côté vers le bas.
Quel que soit le sens dans lequel on la sème.
Quel que soit le sens, elle s'oriente toujours comme ça. Parce qu'elle a besoin que sa racine aille vers le bas pour aller dans la terre où il y a les choses nutritives et l'eau dont la plante a besoin. Et elle a besoin aussi que ses feuilles aillent vers le haut pour aller vers la lumière parce qu'elle doit faire la photosynthèse.
Oui, mais Aline Reynal-Roch, si elle est tombée dans la terre avec la partie racine en l'air, comment elle fait?
Elle se retourne. Ça n'a aucune importance.
C'est toujours comme ça?
Toujours comme ça. Parce que dans ce petit bébé plante, il y a des cellules qui contiennent... Vous savez que les cellules, c'est minuscule, on ne les voit qu'au microscope. Eh bien, dans les cellules, il y a des tout petits corpuscules, infiniment petits, qu'on ne peut voir qu'avec un microscope électronique, tellement c'est petit. Et ces corpuscules sont lourds. Ils sont minuscules, mais ils sont quand même lourds. Donc, par leur poids, ils viennent appuyer sur le bas de la cellule. Et ça permet à la cellule de savoir où est le bas et où est le haut. Et c'est grâce à ça que la plante pousse verticale vers le haut pour la tige et les feuilles, et verticale vers le bas pour les racines. Je vous ai dit que le bébé a besoin d'avoir de la nourriture. Eh bien, dans la noix de coco, il y a du jus. Et ce jus est la nourriture qui est en train de se former et qui entoure le bébé. Parce qu'une noix de coco, c'est une graine. Ce jus est plein de cellules qui se promènent.
Ah oui.
Et ces cellules vont devenir de plus en plus nombreuses et vont venir se déposer à l'intérieur de la noix de coco. Et ça va donner une sorte de crème. Et c'est ce qu'on appelle d'abord le lait de coco, ensuite la crème de coco. Et ça devient de plus en plus épais. Et finalement, ça devient solide. Et c'est ce que nous utilisons comme noix de coco, par exemple, en pâtisserie.
C'est le blanc.
C'est cette partie blanche qui est assez dure, qui est très bonne à manger,
ouais.
Qui, à l'origine, était un jus liquide. Et cette substance, c'est ce qui va servir à nourrir le jeune bébé quand il devra germer.
I'm not afraid to die.
C'était Cindy Lauper, choisie par Jean-Baptiste Audibert pour Les Petits Bateaux, vous savez, l'émission qui répond aux questions des enfants.
Bonjour, je m'appelle Iris. J'aimerais savoir ce que c'est l'âme. Au revoir, merci.
L'âme. Petite question, grande réponse. Vous n'avez que 3 minutes pour lui répondre. Thibaut Giraud, vous êtes docteur en philosophie, auteur de Curiosités philosophiques éditées au Seuil, et vous êtes le monsieur Phi de la chaîne YouTube consacrée à la philosophie. Que diriez-vous à Iris ?
Eh bien, c'est une vaste question. En fait, je serais assez curieux de savoir où Iris a entendu ce mot, parce que c'est quand même pas un mot qu'on utilise tous les jours. Hein. On parle pas d'âme au petit déjeuner. Hein. Et le plus souvent qu'on l'utilise aujourd'hui, ce mot, c'est plutôt en un sens métaphorique. C'est-à-dire, on veut pas parler littéralement d'une âme. Par exemple, on va le trouver dans des tas d'expressions toutes faites, comme par exemple se donner corps et âme, hein, c'est-à-dire se donner à fond, ou être comme une âme en peine, c'est-à-dire être malheureux, ou avoir une âme de poète, c'est-à-dire avoir une sensibilité particulière pour sentir la poésie des choses. À chaque fois, ce sont des expressions qui renvoient à quelque chose de psychologique, en fait, et en particulier aux émotions. Et le mot âme, là-dedans, ça évoque simplement notre vie intérieure dans ce qu'elle a de plus intense, de plus riche. Par exemple, quand quelque chose manque d'âme, on veut dire par là que c'est un peu froid, que ça manque de personnalité. Mais bon, au fond, là, on sait bien que ce sont juste des façons de parler. On pourrait toujours reformuler ce qu'on disait sans faire vraiment référence à l'âme, mais simplement à notre psychologie, notre sensibilité, nos émotions, etc. Hein, par exemple, plutôt que dire « les yeux sont le miroir de l'âme », on peut dire que les yeux permettent de détecter avec une certaine fiabilité les émotions d'une personne. Mais donc, c'est quoi littéralement une âme ? Parce qu'à l'origine, l'âme, c'est pas juste un joli mot pour parler de nos sensibilités. À l'origine, ça désigne bien quelque chose qui aurait une existence en soi. Et l'un des rares contextes où, encore aujourd'hui, on emploie le mot âme en ce sens littéral, eh bien, c'est dans un contexte religieux ou, disons, mystique au sens large. Quand, par exemple, un prêtre vous parle du salut de votre âme, lui, il parle bien de l'âme au sens propre. Hein. Mon âme, ce serait quelque chose qui existerait indépendamment de mon corps et qui va lui survivre. Hein, donc, selon cette vision des choses religieuses, je suis avant tout une âme qui est pour le moment liée à ce corps de chair. Ce corps va finir par disparaître, mais mon âme, elle, on espère, elle ne disparaîtra pas, elle est immortelle. Et effectivement, cette idée d'une âme immortelle, ça semble assez nécessaire dans une perspective religieuse ou mystique, hein, parce que si on veut promettre le salut, hein, c'est-à-dire une vie éternelle bien heureuse après la mort, vous pouvez pas fonder cette promesse sur le corps, vu que de toute évidence, mon corps, il va pas tenir bien longtemps sur Terre. Alors évidemment, c'est fort incertain. Et d'un point de vue philosophique, ça repose sur une conception qu'on appelle dualiste, parce que ça oppose du coup deux choses, le corps et l'âme, donc dual. Et puis, bon, faut quand même dire, cette approche dualiste en philosophie aujourd'hui, elle est très marginale. La position maintenant de loin la plus défendue, c'est plutôt une position matérialiste. C'est-à-dire, en gros, qu'on considère qu'il y a seulement des choses physiques, des choses matérielles dans l'univers. Donc, je ne suis pas une âme, ni même une âme liée à un corps, je suis avant tout un corps, et tout ce qui est expérience consciente, émotion, sensibilité, tout ce qu'on attribue traditionnellement à l'âme, eh bien, c'est produit par, en fait, des états du corps, hein, rien d'autre qu'un nombre incroyable de petites réactions chimiques qui se mélangent comme ça dans un édifice d'une incroyable complexité. Et si mon corps venait à se désagréger, eh bien, cet édifice chimique s'écroule, et toutes ces choses-là qu'on attribue traditionnellement à l'âme cesseraient du même coup. Donc, pas d'âme au sens littéral. Et ça peut sembler un petit peu froid comme conception des choses, hein, ça peut sembler manquer d'âme justement, mais si vous avez l'âme d'un philosophe, bah, au sens métaphorique tout ça du coup, hein, vous pourrez trouver une certaine beauté dans l'idée que toute cette vie intérieure qui semble nous animer et faire de nous des êtres à part dans la nature, eh bien ce n'est que l'effet d'un extraordinaire jeu de mécanismes chimiques à l'intérieur de notre corps, et qu'il n'y a en fait pas besoin d'âme pour nous animer.
Il y a quelques jours, Françoise Hardy dans Boomerang évoquait l'expression « rendre l'âme ». Elle disait que pour elle, le corps, quand il avait fini sa course, rendait l'âme, qui, elle, continuait sa route. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Pâques, fête gourmande et ludique pour les uns, fête religieuse pour les autres. Les éditions Erol ont une collection de petits livres à 12 euros consacrés aux religions ou courants de pensée. Le catholicisme, le judaïsme, le soufisme, le bouddhisme et quelques autres. J'ai lu le taoïsme de Marc Lebranchu. Le taoïsme, né en Chine il y a plus de 2000 ans, s'est progressivement enrichi d'apports qui l'ont transformé. Vous connaissez des mots issus du taoïsme, le feng shui, le qigong ou encore monsieur Lao Tse. L'auteur manifestement se sent un peu à l'étroit dans ce format de livre. C'est tellement dur de faire court quand on a tant à révéler. Peu importe, il nous initie quand même, par exemple en nous racontant cette anecdote. Elle concerne le fleuve Jaune, baptisé ainsi car il charrie des boues. Il est long de 5500 km. Il irrigue la grande plaine centrale. Ses débordements sont meurtriers. Les victimes se comptent par millions. L'empereur Yu le Grand l'aurait dompté, non pas en l'endiguant ce fleuve, mais en facilitant son écoulement, en ne s'opposant pas au flux naturel du fleuve, ébauche de ce qui sera le non-agir taoïsme. Découvrir le taoïsme de Marc Lebranchu aux éditions Erol. C'était une rediffusion des Petits Bateaux du 4 avril 2021. Podcastez, mes amis, podcastez ces Petits Bateaux ou réécoutez-les tout simplement par franceinter.fr. Eliane Girard, Marjorie Devoucoux, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30.